Salut Frédéric, j'ai écouté ton émission Blockbuster sur Akira, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je tenais quand même à parler un peu de Katsuhiro Otomo juste sur Mother Sarah, qui est un de ses excellents mangas et dans la même lignée un peu que Akira, donc post-apocalyptique. C'est vraiment génialissime pour ceux qui ne connaissent pas. Et je voulais parler aussi d'un petit auteur français qui s'appelle Kevin Hero, 34, qui a fait une super série qui s'appelle HK. Je vois que c'est un gros fan de Otomo et pour moi, le digne successeur actuel, c'est lui.
Ben, merci à vous pour cette superbe émission. Et c'est bien de souligner aussi à chaque fois les doubleurs, le vrai travail qu'il y a derrière, parce qu'en fait, les voix, c'est notre enfance. Hein. C'est la voix de Tom Hanks dans Big ou la voix de Marty McFly dans Retour vers le futur. Et puis, on pense aussi aux voix qui nous quittent au fur et à mesure. Et c'est un peu de notre enfance qui part aussi. Donc voilà, à bientôt, Blockbuster. Vous êtes super. Ciao.
Bon, c'est insupportable, Fred, parce que je suis toujours encore sur Lost. J'arrive pas à décrocher.
Concernant Akira, j'ai une petite anecdote personnelle. J'ai découvert les bandes dessinées, les mangas, quand j'étais ado et à une époque où j'écoutais beaucoup Indochine. Conséquence, quand j'écoute Indochine, je pense à Akira et quand je lis Akira, j'ai Indochine dans la tête. Voilà, c'est le côté paradoxal de la culture pop, c'est que des fois, on arrive à lier des choses qui n'ont rien à voir. Merci encore.
Merci pour cet intro hommage à Rutger Hauer, formidable acteur qui mérite effectivement plus que 3 lettres. 5 lettres pour bravo et bravo aussi à vous pour ce formidable été que vous nous faites passer chaque matin et en podcast à tout moment de la journée.
Or not to be. Not to be.
Je dois vous avouer un truc, je n'ai jamais été fan de Charmed.
Quoi ? Comment ? Mais pourquoi ? Comment osez-vous proposer un blockbuster sur un sujet que vous ne maîtrisez pas sur le bout des doigts ?
Oh, c'est bon, calmez-vous. Hein. J'estime que dans un monde où François de Rugy a été nommé ministre de la transition écologique, j'ai une certaine marge en matière d'incompétence. Pour tout vous dire, lorsqu'à l'époque Charmed a été diffusé sur M6, j'étais déjà totalement et irrémédiablement inféodé à la série Buffy contre les vampires. Et lorsque j'ai vu les sœurs Halliwell débarquer, j'ai eu le sentiment, je l'avoue, de voir arriver une contrefaçon, une Buffy marque repère. D'autant que la série était portée par Shannen Doherty qui avait déjà commis une série que j'ai haï une bonne partie de mon adolescence, Beverly Hills 90-210. Excusez-moi, je sais que c'est pas mature, que ce sont des préjugés, mais quand t'as les huissiers à ta porte et que tu vois tes meubles déménager sans toi, les problèmes de la jeunesse de Beverly Hills t'en a un peu rien à carrer. Et puis, lorsque j'ai demandé à l'équipe de Blockbuster, Céline, Marie, Chloé, Prudence et Aurore, s'il y avait un sujet qu'elles voudraient voir traité, une majorité d'entre elles m'ont dit « Charmed !» Et là, je me suis senti tout con. Un peu comme ces gens qui n'ont jamais touché un PC de leur vie et à qui on parle de Minecraft ou Fortnite. J'ai suivi un cours de rattrapage sur le sujet et je me suis effectivement rendu compte que, comme beaucoup, j'étais passé à côté d'une série bien plus progressiste qu'on ne l'imagine. Donc voilà pourquoi on va parler de Charmed ce matin. Mais attention, que les choses soient claires. Je reste Team Buffy.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Quand j'ai parcouru le livre des ombres, j'ai vu des gravures qui ressemblaient un peu à des tableaux de Bosch. Il y avait des images terrifiantes de 3 femmes bataillant contre différentes incarnations du mal.
Le mal luttant contre le mal, c'est un comble.
Non, en réalité, une sorcière peut être bonne ou mauvaise. Une bonne sorcière adopte pour devise, lutte contre le mal, répand la lumière. Et une mauvaise sorcière ou un sorcier n'ont qu'un seul but, tuer les bonnes sorcières pour s'emparer de leur pouvoir. L'ennui, c'est qu'ils ont l'air de gens parfaitement normaux. On les trouve n'importe où.
Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ?
Eh ben, en fait, dans la première gravure, les sorcières étaient plongées dans le sommeil. Mais dans la deuxième, elles se battaient contre une espèce de sorcier. Je crois que tant qu'on ignorait qu'on avait des pouvoirs, on était en sécurité. Et maintenant, on l'est plus.
En 1998, surfant sur le succès de Buffy contre les vampires, Warner Bros. Décide de lancer Charmed, l'histoire des 3 sœurs Halliwell, 3 sœurs aux personnalités très différentes qui vont se retrouver investies de pouvoirs magiques, faisant d'elles des sorcières d'un genre nouveau. Protégeant les innocents des démons, guidées par des êtres de lumière et autres entités spectrales, tout en conciliant cela avec le quotidien d'une jeune fille de la fin du XXe siècle, pendant 178 épisodes, Charmed a longtemps représenté la plus longue série, toujours confondue, à mettre en scène des femmes dans les rôles principaux, avant d'être détrônée par Desperate Housewives Waves avec 180 épisodes, série sur laquelle nous reviendrons très prochainement dans Blockbuster. Teasing. Pour revenir sur cette série qui faisait des cartons d'audience aux États-Unis mais aussi en France dans la trilogie du samedi, j'ai avec moi Marine Catalan. Bonjour.
Bonjour.
Vous tenez le blog La Petite Créature et vous êtes passionnée par les univers fantastiques et ésotériques.
C'est exactement ça.
Avec nous également Louiselle Debiès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice cinéma et série pour le webzine Mademoiselle.
Tout à fait.
Marie Turcan, bonjour.
Hello.
Vous êtes critique série et rédactrice en chef du site Numérama.
Ah oui.
Et enfin Alexis Bichard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre et évidemment, vous êtes tous et toutes des fans de la série Charmed.
Voilà,
on peut être coupable.
Ensemble, on reviendra sur la création de cette série, sur son casting, ses thématiques et surtout sur l'autrice productrice des premières saisons, Constance M. Burge, qui a su distiller à travers le thème de la sorcellerie des problématiques sur le féminisme, la puberté, le paganisme, tout en utilisant des mythologies moins connues du grand public. Cela avant d'entrer en conflit avec Brad Kern, l'autre tête pensante de la série, qui en a fait, on le verra, quelque chose de bien différent une fois qu'il s'est retrouvé tout seul. Charmed, c'est aussi l'occasion de comparer deux points de vue genrés sur un même sujet. Allez, laissez-vous envoûter. Blockbuster spécial Charmed, c'est parti.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les piégés ? On va l'affronter ensemble. Souvenez-vous de la planche magique,
de l'inscription qui était au dos.
Le pouvoir des trois nous libérera. 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 Le pouvoir des trois nous libérera.
Je ne suis pas tout seul.
Le pouvoir
des trois nous libérera. On est des millions dans des endroits que vous ne soupçonnez pas, sous des formes que vous n'imaginez pas. On est l'enfer sur cette terre. Vous ne serez jamais en sécurité et vous ne serez jamais libre. Jamais.
Marie Turcan, le pouvoir des trois nous libérera.
Ah, moi, il m'a libéré.
Mais alors, expliquez-nous cette libération, Marie Turcan. Ça raconte quoi, Charles ?
En fait, ce qui est marrant, c'est que là, du coup, à la fin de l'épisode, ce qu'on vient d'entendre, c'est la fin de l'épisode 1 où un démon vient d'être vaincu. Et en fait, ça annonce vraiment tout ce que ça va être, Charmed, c'est-à-dire une série, en tout cas au début, avec un épisode à chaque fois bouclé sur un nouveau démon qui arrive dans le quotidien de ces trois sœurs Halliwell qui vivent à San Francisco. Et elles vont évidemment devoir le vaincre, mais en même temps, il y a des histoires de famille, il y a des histoires d'amour. À la base, la créatrice voulait une série plutôt sur la sorcellerie et moins sur la famille. Et évidemment, la chaîne WB à l'époque, de Warner Bros, a dit non, on va se calmer un peu sur les sorcières, on va plutôt faire un truc familial avec les trois sœurs. Donc c'est vrai que les premières saisons sont quand même beaucoup portées sur les liens un petit peu distendus au début entre ces trois sœurs.
Et alors, vous avez découvert la série à l'occasion de la diffusion sur la trilogie du samedi ?
Ah, exactement. Moi, je suis une grande fan de Jarod, du Caméléon.
Ouais, Caméléon.
Et contrairement à vous, pas du tout découvert la série après Buffy. J'ai découvert Charmed en premier. Charmed, comme on disait chez moi. Ouais, alors, arrêtez de faire semblant, tout le monde dit Charmed depuis des années.
Non, mais c'est vrai, tout le monde disait Charmed.
Mais en fait, c'était un des coups d'M6 d'avoir réussi à faire ça. Et c'est une des seules séries, chaînes françaises à avoir réussi à faire ça encore à ce jour, c'est de diffuser à la suite un épisode de série différente. Et ce genre de choses qui est très fréquente aux États-Unis ne l'est pas du tout en France. Et en fait, quand on voit comme ça a marqué une génération, notamment la mienne, on voit que ça a du succès et il y en a beaucoup qui essaient de reproduire ça aujourd'hui et qui n'y arrivent pas.
Marine Catalan, vous avez aussi découvert Charmed à l'occasion de la diffusion sur M6 ?
Complètement, c'était avec ma sœur Steph.
Elle commençait. Quel âge ?
J'étais même pas ado à l'époque. Et en fait, elle avait déjà de l'avance sur Charmed. Et en fait, je me suis calée devant l'écran avec elle et j'ai tout rattrapé et c'est moi qui suis devenue accro.
D'accord. Jusqu'à en parler sur votre blog.
Complètement. J'ai gardé Charmed, c'est vraiment ma série préférée. Et ouais, je le prononce à la française. Voilà, c'est bon, maintenant on fait comme ça. Et non, maintenant, ça reste ma série préférée à ce jour. Et c'est celle pour laquelle j'ai le plus d'affect, en fait, parmi les programmes télé.
Et pourquoi exactement ?
Parce que je me suis un peu reconnue. Je pense que quand j'étais petite, quand j'ai vu la série, j'ai aussi deux sœurs. Et moi, c'est vraiment la dynamique familiale et le lien entre ces sœurs qui m'a marquée. Et en plus, dans un univers fantastique, du coup, tout était fait pour que j'aime, en fait. Mais surtout la dynamique familiale.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit. Initialement, les sœurs Halliwell ne sont même pas conscientes de leur statut de sorcière. Les pouvoirs arrivent ensuite. Et ils se développent tout au long des saisons.
Complètement. Elles acquièrent des nouvelles compétences. Leur pouvoir se développe jusqu'à avoir des Piper qui au départ fige, après elle va arriver jusqu'à accélérer les molécules, jusqu'à faire exploser les démons. Donc tous leurs pouvoirs évoluent et sont aussi beaucoup soumis à leurs émotions et à leurs liens.
D'accord.
Alors, Alexis Pichard, expliquez-moi votre rencontre, votre découverte avec Charmed.
Ma rencontre avec Charmed, c'était en 99, parce que il me semble que ça a été diffusé un petit peu plus tard par rapport aux États-Unis. Et je me souviens, un soir, c'était sur M6, et c'était à la une du Télé 7 jours, ou quelque chose comme ça, et je me suis dit, mais ça a l'air génial. Je suivais un petit peu, avec ma grande sœur, Beverly Hills et Melrose Place, donc c'était deux séries où il y avait justement Shane Doherty et Alyssa Milano, que j'avais aussi suivi dans Madame et Servie. Donc pour moi, il y avait déjà cet univers référentiel qu'on connaissait tous. Et puis, tout ça dans un ensemble de fantasy, de magie. Moi, je me suis pas vraiment projeté en tant que garçon de 10 ans, mais j'aimais bien aussi voir ces histoires d'adultes, matinée de magie ça et là, et après du coup j'ai suivi vraiment du début à la fin comme des milliers et des millions de téléspectateurs.
Louise de Biesse.
Louiselle,
excusez-moi.
Il n'y a pas de soucis, c'est un piège. Moi, en 99, j'avais 3 ans, donc c'est pas à cette époque-là que je l'ai découvert vraiment.
Oui, c'était peut-être un peu tôt.
Je rentre tous les auditeurs de France.
Désolée. Ça fait mal, je sais. Mais j'ai quand même découvert Charmed avec la trilogie du samedi. Mais c'était beaucoup plus décousu. Je pense que j'ai pas suivi de façon linéaire au début les saisons. J'ai sûrement pas commencé par le premier épisode de la première saison. Et en fait, même de façon décousue, j'ai totalement accroché à la série et je l'ai retrouvé après en rediffusion toujours sur M6 ou sur W9. Et ouais, je l'ai pas lâché à cette période-là et je me retrouvais dans ces trois sœurs, dans leurs histoires, dans leur évolution, parce que comme Marine l'a déjà dit, leur pouvoir évolue avec elles et même elles, en tant que femmes, elles évoluent. Et j'adore en fait les séries aussi fantastiques où il y a des pouvoirs magiques, des bêtes, des créatures magiques et je voulais ça aussi dans ma vie, donc voilà, j'ai totalement accroché.
Et vous avez réussi à accomplir ce rêve depuis.
Je cherche,
vous êtes entouré
toujours,
par des créatures magiques.
Il y a des créatures magiques autour de moi, oui, mais bon. Voilà, ça s'interprète comme on veut.
Ce qui est marrant, c'est que leur pouvoir évoluait à ces sorcières, mais elles ont aussi été un peu figées par le budget de la série, qui en fait était une production à très gros budget pour The WB, qui n'avait pas énormément de moyens, donc c'est genre 2 millions par épisode à peu près. Et du coup, par exemple, Phoebe à un moment volait, et ils sont, ça coûtait un peu cher de la faire voler, et du coup ils ont dit arrêtez de la faire voler un peu, et elle est revenue un peu en arrière, donc c'est assez marrant quand même, comme enfin il y a quand même eu des contraintes budgétaires qui ont joué dans cette série, parce que maintenant quand on la regarde, bah tiens, c'est un peu kitsch quoi. Il y a les démons qui explosent, les super pouvoirs sont un peu too much. Il y a vraiment quelque chose, bah comme Buffy aussi, une esthétique, et c'est aussi ça qui rend le truc particulièrement plaisant, c'est qu'il y a un côté on se prend pas au sérieux, mais à l'époque, enfin ils se prenaient au sérieux, je pense, quand ils faisaient les démons qui explosent, ils y croyaient à fond, et puis c'était quand même censé faire peur. Maintenant, je ne suis pas sûre que Charmed fasse peur à grand monde. Enfin, je parle pour moi, en tout cas.
On va continuer à parler de Charmed, mais évidemment, c'est l'occasion. On va écouter Queens of the Stone Age avec Burn the Witch. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mancip. Et à la technique aujourd'hui, Alexandre Chenet et Florian Layani.
The hearts and hope.
C'était Queens of the Stone Age dans Blockbuster sur France Inter.
Ça ira ?
Oui, ça aurait pu être pire. C'est affreux quand je pense que j'ai failli saboter mon mariage.
Je comprends pas.
Bah oui, avec tous ces démons, les fondateurs et les faux départs, j'ai décidé que si jamais il y avait encore un obstacle, ça voudrait dire que qu'il ne fallait pas que je me marie.
Ne sois pas si pessimiste, tu as réussi à obtenir ce que tu voulais.
T'inquiète pas, je serai sur mes gardes. J'ai pas l'intention de laisser un démon
gâcher une journée comme celle-là.
Sauf si tu fais un gros dodo. Allez, viens, je vais te border.
Salut, fais de beaux rêves.
Hein ? Ah oui, merci.
Bonsoir.
Bien, à demain. On se retrouve à 4 heures, Madame Halliwell. Les femmes gardent leur nom de jeune fille dans la famille.
Alors j'ai vu qu'il y avait un grand débat pendant l'extrait autour du mariage et des sœurs Halliwell. Donc justement, alors je rappelle que je suis toujours avec la blogueuse Marine Catalan, les rédactrices Marie Turcan de Numérama et Louiselle Debiez de Mademoiselle, et également avec l'enseignant Alexis Pichard pour parler de Charmed. Donc parlez-moi un petit peu des sœurs Halliwell, parce qu'elles sont toutes très différentes. Qui veut se lancer?
Allez, j'inaugure. Oui, elles sont très différentes, avec des caractères vraiment bien distincts. J'ai appris que Constance Amber s'est inspirée de ses propres sœurs et d'elle-même pour créer le trio. Donc elle s'est vraiment basée sur des personnalités qu'elle connaissait déjà et avec qui elle a vécu. Et donc le débat qu'on avait avec Alexis, c'est que moi j'adore Piper et elle, il la supporte pas.
Donc Marine...
tu ne la supportes pas, elle. Voilà.
Marine Catalan, et vous, votre préféré, c'est Piper.
Et ça a toujours été, d'accord, Piper, et ça a jamais changé.
Donc Piper, c'est la plus gentille, c'est la plus sage, et qui rêve de normalité, en fait.
Bah pour moi, je crois que c'est effectivement la plus normale du lot. Elle sait pas se battre comme Phoebe ou Prue. Elle a ce côté un peu Madame Tout-le-Monde, qui, je trouve, est assez fédérateur, qui peut aussi énerver, parce que parfois... Ça peut énerver. Elle est effectivement assez névrosée, on va pas se mentir.
Elle est jouée par Holly Marie Combs.
C'est ça, exactement. Et j'ai toujours trouvé que Holly Marie Combs apportait au personnage des mimiques qui vraiment faisaient tout le personnage, et cette pointe d'humour qui rend encore mieux en VO, c'est sûr. Vraiment faisait tout le personnage, et moi c'est ce qui m'a plu dans Piper, c'est toute sa personnalité et ainsi que son côté angoissé qui la rend très humaine finalement.
Louiselle Debiez ?
Oui, je voulais juste ajouter sur Piper qu'on la voit souvent comme la grande sœur, alors que c'est Prue qui a quand même la figure de maman. Piper, elle est souvent la...
Prue, c'est Shannen Doherty.
Oui, Shannen Doherty, tout à fait. Piper, c'est souvent la plus calme, celle qui est peut-être un peu plus plan-plan, notamment dans sa relation avec Léo. Mais...
Qui est Léo ?
Léo, c'est l'être de lumière des...
Voilà où je voulais en venir.
Je finis juste sur Piper pour dire qu'elle est sous-estimée par moments où... En fait, elle a aussi un pouvoir qui est explosif. Hein. Elle sait se battre aussi, et elle a quelque chose de très piquant aussi dans sa personnalité. Elle n'est pas juste en train de flotter dans le manoir pendant 8 saisons.
Non, pas du
Mais
coup,
du coup, vrai. Léo, l'être de lumière des sœurs Halliwell, c'est, on va dire que c'est leur protecteur, c'est un peu leur guide, et ça devient le mari de Piper. Il appartient du coup aux êtres de lumière qui sont envoyés par les fondateurs pour protéger les sorcières. Fondateur,
des gentilles sorcières, hein, parce qu'il y a aussi des sorcières qui décident de mettre leur pouvoir au service du mal, parce qu'elles n'ont pas de guide. Et donc voilà, c'est les êtres de lumière aident les gentilles sorcières.
Oui, elles peuvent aussi, ça peut aussi être une bonne sorcière à la base qui décide de ne pas être bonne et de se débarrasser de son être de lumière. Mais...
Et Léo, c'est aussi la seule figure.
Marie Turcan.
C'est la figure principale masculine de la série pendant des années. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est le gendre idéal un peu. Enfin, très clairement, ils l'ont mis aussi. Il va bien avec Piper parce que c'est cette figure-là du couple un peu parfait qui aspire à beaucoup de normalité alors qu'ils ne le sont pas. Et en fait, il faut attendre. Alors, je crois que c'est la saison 4 que Cole arrive. Saison 3. Donc, Julianne McMahon qui arrive. Et c'est exactement le moment où Brad Kern donc prend le pas et la direction de la série et c'est lui qui a envie d'insister pour qu'il y ait une nouvelle figure masculine qui arrive et créer une histoire d'amour avec Phoebe qui n'existait pas encore là. Et en fait, c'est là où du coup il y a des dissidences qui se créent un peu, c'est que on a d'un côté la série familiale entre des femmes, est-ce qu'on a envie de parler des relations entre ces sœurs là, et puis d'un autre côté, il y a Brad Kern justement qui a envie d'aller plus dans des relations amoureuses, créer un un petit peu plus de dissension là-dedans et un peu moins se focaliser sur le pouvoir des trois et sur la relation entre ces sœurs-là. Et donc c'est un petit peu toute l'histoire de Charmed, c'est que ça a basculé à ce moment-là et Léo est devenu, je mets des guillemets, chiant, ou en tout cas les gens se sont rendus compte qu'il était peut-être un petit, manquait peut-être un peu de sel à cause de l'arrivée de
Cole, qui lui est un démon,
évidemment, mais c'est le spike de Buffy, c'est le spike de Charmed qui débarque, ou l'Angel, c'est finalement assez classique, et c'est un peu, je sais pas si on peut l'aborder, mais c'est un peu les critiques aussi qu'on peut mettre sur Charmed, c'est que derrière l'idée progressiste de trois femmes fortes qui se battent et on ne voit qu'elles à la télévision, ça reste dans des clichés très, enfin dans des cases très conformes. Piper veut se marier avec son amoureux, Phoebe perd la raison parce qu'elle tombe amoureuse d'un homme. On est quand même dans des cases et des schémas assez patriarcaux. C'est pas grave, mais c'est bien de le dire.
Oui, oui. Et Alexis Pichard.
Pour rebondir là-dessus, effectivement, on a tendance à dire que Charmed n'est pas une série féministe. Or, elle est juste pas féministe au sens où on l'entend, c'est-à-dire dans l'histoire du féminisme. On a plusieurs vagues de féminisme qui commencent dans les années 10 avec les suffragettes qui ont essayé de, enfin qui ont milité pour avoir le droit de vote. Ensuite, dans les années 60, une génération bien plus misandre qui luttait collectivement, qui était politisée pour avoir de nouveaux droits, libération sexuelle, etc. Et les années 90, donc période dans laquelle est produite Charmed, qui est l'avènement d'une génération post-féministe. Alors c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire c'est une génération qui ne se reconnaît plus nécessairement dans les idées des années 60, donc l'idée d'un mouvement collectif entre femmes extrêmement virulent en quelque sorte, mais qui concilie finalement des aspirations indépendantes à l'échelle individuelle avec aussi des aspirations de félicité domestique qui passent par la maternité ou le mariage. Donc voilà, c'est le girl power en quelque sorte, c'est ce qu'on retrouve notamment dans Buffy, etc. Voilà, donc c'est à la fois une série qui est féministe au sens structurel des années 90, mais pas nécessairement par rapport aux années 60. Et justement, elle met en permanence, de manière allégorique, un combat avec les féministes des années 60, qui sont toujours représentées par des femmes d'une cinquantaine d'années, qui sont généralement des sorcières.
Mais d'ailleurs, la grand-mère Halliwell incarne un visage du féminisme plus radical.
Tout à fait, elle s'est mariée plusieurs fois, elle déteste les hommes, elle les traite de chiens.
Et quand elle a un petit-fils et qu'il s'agit de le faire baptiser pour le protéger, elle refuse.
Elle refuse en un premier temps, mais voilà, donc c'est aussi le message de Charmed, c'est que les post-féministes ont raison. Et quand elle sollicite toujours l'aide de la grand-mère, finalement, c'est la grand-mère qui apprend des choses sur la féminité, sur ce qu'est être une femme au XXIe siècle. Donc elle a vraiment ce message ambigu vis-à-vis des années 60 et qui est matérialisé, comme je vous l'ai dit, par le fait que ces sorcières des années 60 qui sont représentées par des actrices des années 50 sont toujours des sorcières méchantes qui sont en quête de pouvoir et qui sont invariablement détruites par les sœurs Halliwell.
Alors, je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant Charmed. Saurez-vous y répondre ? Dans Charmed, Léo, un être de lumière, est promu fondateur. La grand-mère des sœurs Halliwell est nommée grande prêtresse. Cole, le démon, devient la source. En fait, il y a un plan de carrière hyper intéressant dans l'au-delà. Parce que c'est très très organisé, hein, c'est très américain. Est-ce qu'il y a, l'être de lumière du moi?
Non, alors, quand Léo devient être de fondateur, c'est qu'en fait tous les fondateurs ont été tués. Donc c'est plus une nécessité, parce que globalement je pense qu'il n'y a aucun employeur qui veut employer Léo en tant que figure d'autorité. Voilà, donc je pense que c'est uniquement par dépit.
Est-ce que Léo est le François Hollande de cet univers?
Il est dans la synthèse, il est dans l'esprit de la synthèse, effectivement. C'est quelqu'un de compromis.
Très bien. Pour devenir un être de lumière, il faut avoir été quelqu'un d'extrêmement bon dans cette vie. Est-ce que vous pensez que Vianney a ses chances? Parce que je trouve très gentil, moi. Il est toujours souriant.
Moi, je pense qu'il l'est déjà.
L'avez-vous déjà vu rentrer dans une pièce?
Je ne crois pas. Il est toujours là.
Bon, par contre, il faut être mort. Ah, voilà, c'est comme une condition sine qua non.
Ah, et vous m'annoncez ça comme ça, Ok, d'accord. Les sœurs Halliwell ont le pouvoir des trois qui leur permet de protéger les innocents en Californie. Donc les innocents au Soudan, ils vont se faire foutre ou ailleurs.
Il y a peut-être des sœurs Halliwell au Soudan qui n'ont pas leur série. Mais...
Parce que j'ai vu que c'était les trois sorcières les plus puissantes.
Oui, alors dans certains épisodes, on les voit quand même qui interagissent avec des étrangers. On voit un épisode notamment où Piper va en France. Évidemment, donc la France, c'est Paris avec la Tour Eiffel et
une baguette et poule.
Voilà,
une poule.
Elle essaie de parler français, ce qui est une catastrophe aussi, ce qui est toujours très drôle.
Ceci dit, les Avengers ont beaucoup sauvé New York ces derniers temps. Donc...
Et Jack Bauer
oui,
a sauvé...
Oui, mais on les voit Wakanda aussi.
Oh oui, maintenant,
Marie Turcot, ne lancez pas sur le sujet, on est sur Charmed. Merci pour ces précisions essentielles. Le temps de s'en remettre de ses émotions, on fait une petite pause musicale.
C'est une chanson, ça n'engage que nos prénoms. Dans mes graves articulés, c'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, frayé par mes façons, mais quand même cette chanson est une pensée, moi qui sais te trouver. Tout vient par grand froid de ta bouche labée. Je me dis quand je pars en morceaux, tu ne sais pas me regarder. Et ma voix de chevalier rend justice à ma beauté. Plus douce et tranchant quand je me raconte. Ma langue est le seul corps qui vraiment compte. C'est comme si on se met.
C'était Christine and the Queens sur France Inter.
Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter.
Tu crois que tu vas réussir à m'émouvoir ?
Non, je voulais surtout que tu vois qui je suis réellement, Phoebe.
J'ai bien compris qui tu étais. Balthazar.
Non, attends. Je ne te ferai pas de mal, je te le jure.
Tu le jures ? Mais c'est déjà trop tard, le mal est fait. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas tué ? Pourquoi me faire subir autant de souffrances ? Tu voulais me démolir, c'est ça ? Tu trouvais un malin plaisir à me faire souffrir ?
Non, je t'assure que non.
Alors pourquoi ?
J'ai essayé de te tuer. Je n'ai pas pu. C'était ma mission. J'ai fait plusieurs tentatives, mais tes sœurs et toi, vous m'en avez empêché. Vous êtes remontés dans le temps, et moi, j'étais censé vous détruire le jour d'Halloween.
C'était toi ?
Je me suis servi de toi comme je l'avais prévu. Il ne me restait plus qu'à finir le travail. Mais c'était trop dur. Je me suis rendu compte que j'étais amoureux.
Quel salaud ! Tu me dégoûtes.
Je te jure que c'est la vérité.
Ah là là, les joies de la version française avec Cole Turner, le diabolique joué par Julianne McMahon et doublé en français par Arnaud Arbessier.
C'est ça le quiz qu'il fallait faire, il fallait faire Amour, gloire et beauté ou Charme.
Oui, oui, oui. Et
ouais,
vos auditeurs votent.
Et Phoebe Halliwell joué par Alyssa Milano et doublé en français par Magali Bernet qui était tout étonnée que Cole, c'était le démon qui lui avait fait des vilaines choses à Halloween. Alors, au standard, il y a la réalisatrice qui me disait qu'elle recevait carrément des coups de téléphone de gens qui disent « Oui, mais Charme 6 !»
c'était une série féministe parce que d'abord il y avait que des femmes et contrairement à ma sorcière bien aimée, elle se débrouillait sans les mecs et les mecs dans les premières saisons c'était juste des objets sexuels c'est et vrai. Ça c'est très féministe. Donc est-ce que c'est vrai?
Alors, bah, les objets sexuels, enfin c'était des démons quoi, principalement déjà.
Ah, alors ça justement, c'est une question qui moi m'a que je me posais en regardant les épisodes. Est-ce que tous les démons sont des hommes? Que des hommes?
Ah, non. Non, il y a aussi des personnalités féminines.
Ouf, not all.
Là parce que j'avais le lobby qui allait arriver sur Twitter. Ah oh, pas tous les hommes.
Moi si je peux me permettre ça sur j'ai eu pareil le même genre de remarque. Oui, c'est vrai que au niveau des démons, c'est très cliché. C'est des femmes qui combattent des hommes. C'est pas très féministe. En tout cas, c'est misandre. Mais en l'occurrence,
je
crois que c'était assez pertinent parce que déjà dans la société, on a plus d'hommes qui sont incriminés parce que virilité toxique, on met en valeur la colère, le fait de refouler les émotions. Donc c'est beaucoup d'hommes et ça c'est la réalité qui sont incriminés. Dans nos sociétés. Ensuite, les trois sœurs.
Vous êtes bien consciente, Marine Catalan, qu'en disant, en terminant cette phrase comme vous venez de le faire, vous avez déclenché 278 milliards de mails de gens qui ont dit pourquoi vous laissez dire ça?
Si je peux ajouter, il y a aussi, par exemple, toutes les séries comme Esprit criminel, Les Experts, qui, pendant des années et des années, épisode par épisode, ont mis en scène des meurtres de femmes sanglants par des hommes. Après, il y aura tout pour critiquer chaque série pour chaque truc.
Et sur d'autres aspects, il y a aussi le fait que les sœurs sont toutes hétérosexuelles et que beaucoup les démons essaient de profiter de ce biais-là pour les approcher, afin de les séduire et après de mieux les attaquer derrière. Et de la même manière, elles combattent beaucoup de démons qui sont infiltrés chez les humains et très souvent à des postes de pouvoir. Et dans notre société, c'est aussi des hommes qui sont à des postes de pouvoir en majorité. Donc c'était assez cohérent vis-à-vis de la société dans laquelle on est. C'est assez représentatif en fait.
Mais écoutez, ça me semble très très clair comme réponse. Alors Charmed est une série qui a certes marqué tout un public et toute une génération, mais certains, dont moi, sont restés relativement hermétiques à cet univers. C'est la séquence J'aime pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Ah oui, mais je me doutais bien que ça va être cruel pour vous, mais parce que vous savez, moi j'ai adhéré à Charmed par conviction de mon équipe, voilà, et c'est vrai que je conçois tout à fait toutes les qualités qu'a cette série, mais en termes de réalisation pure, autant par exemple, on a fait un blockbuster sur Lost, il y a un premier épisode divinement réalisé, dans Buffy contre les vampires, il y a l'épisode musical, il y a l'épisode The Body, où Buffy découvre le corps de sa mère, et c'est des épisodes qui ont marqué en fait les critiques de l'époque. Est-ce que dans Charmed, au-delà des thématiques qui sont intéressantes, est-ce qu'il y a vraiment des épisodes réalisés qui sortent de cette série du tout venant audiovisuel américain?
Bien sûr, il y a des épisodes qui sont, surtout dans les dernières saisons, qui sont extrêmement audacieux par rapport à la télévision américaine. Il y a notamment un épisode dans la saison 7 qui est partiellement ou en grande majorité en noir et blanc, ce qui pour une chaîne pour adolescents était inconcevable, et le producteur donc, qui était Brad Kern, a dû se battre pour que cet épisode qui reprenait en fait l'esprit du film noir du Faucon Maltais, je vais y arriver, et qui était du coup une production plan par plan de l'esthétique de l'époque, enfin de ce genre de film, donc avec des plans anguleux, des archétypes aussi de la femme fatale, etc. C'est un exemple parmi d'autres. On a aussi des épisodes péplum qui reprennent des Valkyries, l'univers vraiment très kitsch pour le coup des années des films des années 50. Donc il y a un épisode avec des déesses grecques, un épisode avec des Valkyries.
Vous appelez ça l'intertextualité?
L'intertextualité,
c'est ça,
oui, c'est-à-dire une reprise de d'œuvres précédentes. Puisque vous parlez d'intertextualité, on a aussi des références à de nombreux films. On a une scène qui est pas très heureuse, mais qui reprend Matrix, qui est faite durant la saison 3. Alors c'est vraiment pas très heureux,
oui, avec le budget.
Voilà, c'est du ralenti. Pas
ils ont déjà du mal à faire voler Piper.
Exact. Non, c'est pas Piper qui vole, c'est Phoebe.
Phoebe.
Attention,
Phoebe.
On ne rigole pas là-dessus. Et oui, donc c'est une série qui reprend énormément de références, qui soient aussi bien de la culture littéraire, élitaire, comme je pourrais parler pendant des heures, mais il y a beaucoup de références à Shakespeare. Le premier épisode est nommé d'après une réplique de Macbeth, qui est prononcée par justement une des trois sorcières de Macbeth. On a des références à des films beaucoup plus populaires comme Coyote Girl. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui date peut-être de l'an 2000.
Je crois.
Vous avez
peut-être vu, mais je m'en souviens plus.
L'une des scènes clés, c'était une héroïne de.
Qui oui, était je sais. Il y a Tyra Banks, mais je m'en souviens plus.
Oh là là, la mauvaise foi.
Et elle danse
sur le bar, et cette scène est reprise.
Oui, elle a peur de chanter. Oui, mais j'ai pas vu.
Piper qui est ensorcelée, danse sur le bar de manière très évocatrice. Ouais, ça m'avait marqué.
Et c'est peut-être une des seules fois où justement Piper est sexualisée, hyper sexualisée, parce que c'est pas un personnage qui est comme j'abonde dans ton sens, qui est mise en avant pour sa sexualité.
C'est vrai, exactement.
En fait, ce qui est assez curieux, c'est que cette question de légitimité de la série, elle se pose que pour certaines séries et pas d'autres. C'est-à-dire que vous parlez de Buffy, parce que Buffy, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. C'est la série un peu pour ados qui a été adoubée par les critiques. Et du coup, c'est de bon ton d'apprécier Buffy, de déconstruire la série. Il y a eu beaucoup plus
Marie
d'études
Turcan,
sur le
je
sujet.
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Excusez-moi, les Français ont le droit de savoir. Je vais vous dire ce qu'ils veulent, les Français. Les Français, ils ont besoin de divertissement également. Charmed, c'est avant tout Aaron Spelling, qui est un des producteurs les plus prolifiques de la WB. Il a fait Beverly Hills, il est derrière Dynasty, il est derrière énormément de gros succès, et c'est à la maison, et notamment il a été cherché pour aller créer cette série. Donc en allant chercher Aaron Spelling, il savait très bien ce qu'il voulait. Il voulait pas un Buffy, il voulait autre chose. Il voulait une série qui soit peut-être un peu plus légère, en tout cas avec des valeurs plus familiales, comme c'était dit. Et en fait, je pense que de plus en plus, les universitaires vont se porter sur d'autres sujets que Buffy, en tout cas dans les séries des années 90 féministes, et commencer à le déconstruire. Et je pense qu'on va découvrir de plus en plus de choses.
Mais d'ailleurs, est-ce que ce serait pas dû être le cas pour Charmed si justement il n'y avait pas eu ce changement d'autrice, productrice derrière
Il y a eu ce changement un petit peu de sexualisation. Après, vous
parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a une actrice qui est partie.
Oui, voilà. Alors, Shannen Doherty a quitté à la fin de la saison 3. Et en fait, il y a aussi Alyssa Milano. On n'en parle pas beaucoup, alors qu'en fait, ça a quand même beaucoup joué. Alyssa Milano était connue avant pour Madame est servie. Donc, quand elle arrive sur Charmed en remplacement d'une autre actrice qui s'appelle, j'ai noté son nom, Laurie Rome, elle arrive et en fait, c'est un peu elle qui fait la touche Charmed. Et c'est bête à dire, mais la toute charmed. Vous avez compris, vous l'avez.
Je suis quand même pas complètement débile, mais.
Et grâce à Alyssa Milano, Charmed est quand même porté immédiatement sur la scène nationale et internationale par la suite. Et c'est quand même elle qui fait vachement tourner la série. Sachant qu'en plus, Shannen Doherty avait fait engager Holly Marie Combs parce que c'était sa pote. Donc ça a aussi contribué à faire de ça un produit vraiment populaire.
Et tourner autour de cette actrice, parce que à la fin de la saison 3, où il me semble que c'était Shannen Doherty qui était en premier dans le générique, c'est Alyssa Milano qui prend la tête du générique et qui prend en fait la tête aussi de l'intrigue, puisque c'est la saison 4 tourne vraiment autour de ce personnage.
Alors qu'elle a le pire pouvoir.
Alors qu'elle a le pire pouvoir. Péter. Et après, les deux des trois actrices deviennent productrices aussi du show, donc ce qui va aussi permettre de détourner en fait le show à leur propre avantage, donc que ce soit physiquement ou même au cœur des intrigues.
Et qu'est-ce qui a expliqué le départ de Shannen Doherty?
Alors une énorme brouille entre Shannen Doherty et Alyssa Milano, justement parce que c'était des stars des années 90 qui avaient du mal à cohabiter ensemble, et donc la rumeur raconte que ça finissait vraiment en catfight dans les coulisses, où elles se battaient à coups de... elles se crêpaient le chignon littéralement. Et Aaron Spelling a décidé de se séparer de l'une des deux actrices, et ça a été Shannen Doherty, qui avait déjà quitté Beverly Hills dans les mêmes conditions.
Vous êtes de biais.
Et Shannen Doherty, elle disait aussi à la fin de la saison 2, déjà elle commençait à dire qu'elle sentait qu'elle faisait le tour du personnage de Prue. Et du coup, je pense que ça a participé aussi à son départ, que c'est pas juste du catfight, même s'il y en a sûrement eu. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'autre chose.
Et de temps pour elle.
Et désormais, elle s'entend très bien, en plus, de ce que j'ai compris, des interviews récentes, de l'eau à coller sous les ponts, et les deux actrices qui ont aussi évolué depuis s'entendent très bien, en fait.
En cette demeure, ici et maintenant, j'en appelle au pouvoir ancien pour faire revenir ma sœur et rétablir le pouvoir des trois. Pouvoir des sorcières, relève-toi, que ton cours invisible à travers les cieux nous entende et réponde à notre appel pressant pour revenir parmi nous et y rester.
Oh, Piper, il est 4 heures du matin, qu'est-ce que tu fais? Tu as le doigt en sang.
J'arrive pas à comprendre pourquoi la magie n'a aucun effet. Pourquoi ne peut-elle pas faire revenir Prue? On a toujours réussi à vaincre la mort jusqu'à maintenant. Comment se fait-il que cette fois ce soit différent? On a déjà fait appel à la magie, on connaît plusieurs formules qui ont toujours marché. Appeler une sorcière égarée, remonter le temps. On dirait que le livre nous a abandonnés et qu'il l'a abandonnée elle aussi. C'est atroce qu'il refuse de nous aider, pourquoi?
On a perdu une sœur qu'on adorait. On ne peut pas comprendre, ça fait trop mal. On aura beau se servir de toutes les formules qu'on connaît pour la faire revenir, on ne peut rien y faire.
Donc Prue est morte, oui. Shannen Doherty nous a quittés,
oui,
et elle est remplacée par Paige Matthews, jouée par Rose McGowan. Donc expliquez-nous l'arrivée de cette nouvelle sœur Halliwell, parce qu'en fait on était vraiment sur le pouvoir des trois, et tout d'un coup elle se retrouve deux. Comment les scénaristes ont réussi à rebondir là-dessus?
Alors en fait ils ont le truc scénaristique, c'est que au moment de l'enterrement, Paige voit dans le journal qu'il va y avoir l'enterrement de Prue Halliwell, et elle se sent irrémédiablement attirée à cet événement. C'est bizarre dit comme ça, mais elle dit il faut que j'y aille, il faut que je rende hommage à cette personne.
Comme
je sais pas
si
pourquoi, mais il faut que j'y aille.
Un contrat hollywoodien.
C'est ça, c'est bizarre.
100 millions.
Comme par hasard. Donc elle y va, et Phoebe aura une prémonition en serrant la main de Paige après la cérémonie. Elle va se rendre compte que cette jeune femme est en danger. Elle a aucune idée de son identité, mais elle va la sauver, et au fur et à mesure ils vont se rendre compte que Paige est une sœur cachée.
Alors,
c'était quand même quelque chose qui avait été introduit en filigrane dans un épisode de la saison 2 qui était consacré justement à la mort de la mère, et on avait appris que la mère de sœur Halliwell avait une relation avec son être de lumière, c'est et ça. Que potentiellement il y avait eu un enfant caché qui était né de cette union interdite.
Donc tout était prévu
bien de sûr
date.
Depuis le début,
c'est-à-dire que dès le début ils avaient senti qu'Alyssa Milano et Shannon Keith, ça allait pas le faire
et qu'il fallait préparer une sœur cachée. Tout à fait.
Et alors on n'a pas parlé de la mythologie convoquée par Charmed, parce que les premières saisons ont vraiment donné la part belle à des créatures qu'on utilise assez rarement, le Wendigo, Banshee, etc. Il y avait aussi des notions de paganisme, de sorcellerie Wiccan. Ça a complètement évolué en fonction du changement de showrunner.
Oui,
l'univers
s'est clairement étendu avec des nouvelles créatures magiques, des nouveaux personnages et compagnie. Et ils sont sortis un peu de ce paganisme pour aller vers des références plus populaires et qui parleraient probablement plus aux plus jeunes et au plus grand nombre. Ça a changé la série. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que ça a permis aussi au show de se réinventer et d'aller chercher peut-être d'autres spectateurs. Moi, j'aurais plus un problème sur la façon dont ça a été traité, parce que on sent à l'arrivée de Paige, il y a une cassure dans les costumes qui ont rétréci.
Qui ont rétréci, voilà, pour laisser les nombrils apparents.
En dépit du non-sens.
Voilà, des décolletés très prononcés.
Oui, en dépit du non-sens parfois, comme le précise Marine. Je pense à chaque fois aux Valkyries, il y a une scène où Piper devient une Valkyrie et ses sœurs aussi se transforment en Valkyries, qui sont donc des guerrières et qui sont vêtues de deux morceaux juste pour cacher leur poitrine et leur partie basse, c'est un peu surprenant quand même.
En fait, ça correspond un peu à une époque, et en plus, enfin, une époque d'hypersexualisation qui commençait quand même un peu à prendre de l'ampleur à ce moment-là. Et en même temps, la saison 4, c'était vraiment l'avènement de Charmed aussi, quoi. En termes d'audience, c'est le moment où on pouvait pas acheter un Serimag ou un One sans avoir sans avoir un grand poster à 4 avec Paige notamment, des sœurs Halliwell. Donc c'est paradoxal, parce que évidemment on va toujours souvent pour une série dire que les premières saisons sont les meilleures, mais là pour Charmed en fait ils ont quand même continué longtemps parce que la série a été devenue un phénomène énorme, et donc on a paradoxalement Paige qui arrive, la série chute en qualité et en, on va dire en cohérence, même si est-ce qu'on peut parler de cohérence avec des êtres de lumière et tout ça, et voilà. J'ai perdu le fil de mes pensées, donc je pense que j'avais assez parlé.
Je m'interromps souvent très souvent, voilà. Souvent aussi.
Est-ce que je peux ajouter une petite chose? Parce que effectivement, quand Paige arrive, en fait, la série n'est pas du tout plus fantaisiste dans un premier temps. Elle est extrêmement sombre, et en fait, cette saison 4 qui est à la fois très feuilletonnante et très sombre, elle donne lieu à des audiences qui sont un petit peu médiocres, et donc la Warner Bros. À l'issue de cette saison dit: on veut plus de feuilletonnant, on veut plus de noirceur, donc on veut quelque chose de beaucoup plus populaire, de beaucoup plus grand public, et en plus la case de diffusion de Charmed change du jeudi au dimanche. Et dimanche, c'est vraiment l'exposition pour la famille. Mmh. Donc vraiment le premier épisode de la saison 5 est pour moi exemplaire de ce changement de perspective, puisque on a un épisode sur les sirènes, donc il reprend à la fois le Disney Ariel, donc pour les enfants. À la fois le côté maternel, parce que Piper tombe enceinte, et donc c'est ce côté maternel, et le divorce de Phoebe. Et enfin pour les pères, Voilà, les pères de famille. On a Phoebe, donc Alyssa Milano, à moitié dévêtue, hein, puisqu'elle est, elle est en sirène les trois quarts du temps. Donc, c'est-à-dire, les sirènes pour Charm, c'est quelques écailles sur les seins et une queue en écaille. Donc, voilà, en fait, c'est aussi
un
compromis.
On est en plein dans ce que, alors, c'est un terme, c'est un anglicisme. Il va y avoir une émission qui juste après, qui les dénonce, mais on appelle ça le male gaze.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez, le regard complaisant pour les hommes, en fait.
Et
c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de séries et de films aussi.
Très, très nombreux. Le male gaze, c'est vraiment le fait de produire une œuvre pensée pour le regard masculin, et généralement via un regard masculin. Dans les dernières saisons, alors il y en a aussi eu sous Constance, l'ère de Constance Amberge, hein, des costumes sexy. On a même voulu rembourrer les soutiens-gorge d'Olly Marie Combe. Elle a refusé en disant que c'était ridicule, et elle avait bien raison. On a voulu quand même lui rembourrer, alors même que Constance était encore largement aux manettes avec Brad Kern. Quand Brad Kern est totalement et l'unique showrunner, ça se dévêtue un peu plus, c'est un peu plus sexualisé. Il faut savoir que souvent, on voit dans les costumes, Olly Marie Combe est souvent toujours plus vêtue que les deux comparses, parce qu'elle a ce côté-là aussi, un peu plus, entre guillemets.
Elle est souvent en jean aussi.
Mais c'est aussi parce qu'elle a son style bien à elle, même en tant qu'actrice, elle était souvent un peu plus pudique, et, alors que les autres actrices étaient beaucoup plus avec leur corps, et ça c'est bien aussi, elles étaient à l'aise, et ça c'était vraiment chouette. Mais oui, il y a un rétrécissement, et moi le costume qui m'a marquée, c'était vraiment quand on découvre Billy, qui est une nouvelle recrue qui arrive pour seconder les sœurs.
Kelly Coco.
Et alors au départ quand on la connaît, elle sait qu'elle a des pouvoirs un petit peu, et en fait elle est habillée d'une manière extrêmement cliché qui est pas du tout pratique pour se battre.
D'accord. Dans quelques instants on va jouer avec un auditeur, mais avant cela on écoute une artiste qui a eu la gentillesse de venir nous voir pour le blockbuster consacré à Prince, Jeanne Haddad avec Radiate.
Feel my anger radiate, my brutality disseminate. Still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. I am in danger to be the danger, the quiet anger, the troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger radiate, my brutality disseminate. Still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together. Battles only just began, and I'm going under. If you rise with the sun, we will go together. Dragging myself down, so deep and low, so red. But I know from the radio the world's changed all around. And I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger. My brutality disseminates. Still feels empty around me, but now I can bear this.
C'était Radiate de Jeanne Haddad, et maintenant on joue.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Olivier au téléphone. Bonjour Olivier.
Bonjour Frédéric. Bonjour France Inter.
Vous allez bien?
Oui, et vous?
Mais très très bien, très très bien. Vous étiez fan de Charmed donc?
Alors j'ai regardé un petit peu dans la trilogie du samedi en fait sur M6 et puis c'est devenu un petit plaisir coupable.
Oh, il faut pas être coupable. Personne vous juge aujourd'hui. Personne. Vous êtes entre gens de bonne compagnie. Vous connaissez le principe du jeu?
Oui, tout à fait.
Alors, je récapitule quand même hein, pour les nouveaux auditeurs. Je pose trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon?
Très bien.
C'est parti. Quelle sœur Halliwell a été transformée en Wendigo? Réponse A, Prue. Réponse B, Paige. Réponse C, Piper.
Je dirais Piper.
Eh bien, c'est Piper, c'est une bonne réponse dans l'épisode 12 de la première saison. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le Wendigo est une créature lycanthrope, même si ça tient plutôt je sais pas si c'est vraiment un loup-garou, issu de la mythologie amérindienne. Et c'est une malédiction. Voilà, c'est quand tu manges un corps humain, bah tu transformes en Wendigo. Question suivante. Quel est le nom de la toute première sorcière de la lignée Halliwell?
Alors, Melinda Warren.
Melinda Warren! Et ben voilà, parfait! Qui a vécu au XVIIe siècle, son amant l'a dénoncée en tant que sorcière et lui a volé ses pouvoirs. Et ben voilà, c'était l'histoire des scénarios de Charmed, en fait. Avant qu'elle ne soit condamnée au bûcher lors du grand procès des sorcières de Salem. Le début d'une grande histoire de confiance entre les descendantes de Melinda Warren et la gente masculine. Maintenant, on va écouter un son. On va vous faire écouter un extrait dans lequel Phoebe se transforme en créature. En quelle créature s'est-elle transformée?
Alors, en Banshee.
Eh ben voilà! C'est le Banshee, une créature magicienne issue de la mythologie celtique et irlandaise. Eh bien, Olivier, vous avez gagné le livre Sorcière de Mona Chollet aux éditions La Découverte.
Très bien. Est-ce que je peux passer une toute petite dédicace?
Ben, allez-y.
Alors, je remercie mon frère qui m'a fait découvrir le podcast, qui est actuellement en Autriche et qui va m'écouter en replay.
Oh, c'est mignon.
Et puis à mon ex, en fait, qui m'a fait découvrir aussi Charmed, parce qu'elle est très fan avec sa sœur. Donc, je remercie Auré.
Oh, que c'est triste. C'est triste et mignon à la fois. C'est ce que me dit la réalisatrice à l'oreille. Bon, bah, merci beaucoup, Olivier.
Excellent week-end.
À vous aussi. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Alors, très rapidement, est-ce que y aurait une série désormais qui serait la digne héritière de Charmed?
Ah, ça s'appelle Charmed. Il y a eu un reboot de Charmed. Oui. Ça s'appelle Charmed et c'est pas mal. On a pris un peu le même concept avec exactement le même but, c'est-à-dire être populaire.
D'accord. Marine Catalan, Louiselle de Biaise, Marie Turcan et Alexis Pichard, je vous remercie. Cette émission touche à sa fin. Hein, comme toujours, aux éditeurs, je vous le dis, si vous voulez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission, eh bien, vous serez les bienvenus. Et enfin, il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI.
Ne me dis pas qu'on doit aller vaincre un démon.
Non, ça ne risque plus de nous arriver avant des mois.
Que fais-tu avec le livre des ombres?
Je me suis dit qu'on devrait y coucher toute notre histoire. Les épreuves qu'on a traversées et tout ce qu'on veut transmettre aux générations futures pour leur passer le flambeau comme on nous l'a passé à toutes les trois.
Et on se retrouve lundi pour parler de l'acteur dont la carrière est un blockbuster à elle toute seule, Tom Hanks.